On va ouvrir donc la parole de Dieu dans la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 1er. Nous allons relire les 11 premiers versets de Pierre 1. Commençons donc au verset 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience la piété à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Nous poursuivons donc notre étude de cette deuxième lettre de Pierre. Nous avons déjà vu dans les premiers versets, et en particulier les versets 5 à 7, cette exhortation à cause de cela même. Après avoir parlé donc de tout ce que Dieu nous donne en Christ et des privilèges qui sont les nôtres, il dit à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la connaissance, etc. Et nous avions vu que le verset central ou l'objectif de cette lettre peut se résumer avec ce verset 10, quand il parle d'affermir votre vocation et votre élection. Et nous avons déjà commencé à voir des raisons que l'apôtre nous donne pour mettre en pratique cette exhortation, pour meubler cette foi, quand il parle d'exhorter, d'affermir notre vocation et notre élection. Il parle aussi et surtout de savoir que l'on est les bénéficiaires de ce salut, que l'on a cette assurance et cette joie du salut que Dieu donne en Jésus-Christ, de connaître Dieu comme notre Père et Jésus-Christ comme notre Sauveur. Et ce matin, nous allons continuer en regardant ce que l'apôtre nous dit donc dans les versets 8 à 11. Et avant cela, je voudrais simplement souligner deux choses, faire deux remarques. La première, c'est que le Nouveau Testament ne parle jamais de sainteté ou de vie de sainteté en termes de loi. Le Nouveau Testament ne vient jamais nous présenter avec une loi, avec un ensemble de règles, nous dictant ce que nous devons faire ou ne pas faire. Le Nouveau Testament ne nous considère pas comme des enfants dans ce sens. Des enfants, on doit leur donner des règles, on doit leur dire ce qu'il faut faire, on doit leur donner un cadre et leur dire voilà ce que tu peux faire, voilà ce que tu ne peux pas faire. Etc. Quand on grandit, ce cadre-là n'est plus imposé. Et ensuite, il vient de la personne elle-même. Si quelqu'un considère la vie de sainteté dans ces termes, de ces termes légalistes, il s'éloigne de l'enseignement du Nouveau Testament. Tout au long du Nouveau Testament, quand on relit les lettres des différents auteurs, on voit en fait qu'ils font appel à notre raisonnement. Et l'argument, on pourrait dire, se résumerait de cette manière. Il dit, si tu professes croire certaines choses, et si ta parole est sincère, est-ce que tu ne vois pas que ces choses impliquent une certaine pratique, une certaine vie pratique. D'autres mots, quand le Nouveau Testament fait appel et nous appelle à la sainteté, c'est en des termes de raison, de quelque chose qui est raisonnable. Vous affirmez certaines choses, vous affirmez être devenu quelqu'un de nouveau, être une nouvelle créature en Christ. Alors, suivez cette logique, vivez, mettez en pratique ce que vous affirmez croire. C'est la logique de l'argumentation des auteurs du Nouveau Testament. Bien entendu, si certaines personnes n'affirment pas croire ces choses-là, il n'y a pas cette argumentation, il n'y a plus l'appel à cela. Mais si vous croyez ces choses, les auteurs nous le disent, nous le rappellent, soyez raisonnables. Vous êtes enfant de Dieu, vous affirmez avoir connu cette transformation, cette vie nouvelle, cette vie de Dieu en vous. Vous êtes, pour reprendre les termes de l'apôtre Pierre, vous êtes participant de la nature divine. À ce moment-là, n'est-ce pas inévitable qu'il faut joindre à votre foi la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, etc. C'est un argument logique. C'est un argument qui fait appel à la raison. Celui qui est né de Dieu désire les choses de Dieu. C'est de manière tout à fait raisonnable. Et c'est ce à quoi font appel tous les auteurs du Nouveau Testament, et en particulier ici l'apôtre Pierre. Et la deuxième argument qui en fait suit le premier, c'est que quelqu'un qui se dit chrétien ne peut pas s'opposer à cet appel à vivre dans la sainteté. S'il le faisait, ce serait encore une fois illogique. Quelqu'un qui se sait, qui affirme être enfant de Dieu, ne peut pas être indifférent aux exhortations que nous donnent les auteurs du Nouveau Testament. Quelqu'un qui ne dit pas, c'est tout à fait normal qu'il s'oppose à cette norme, qu'il ne soit pas intéressé dans ces choses, qu'il considère la vie chrétienne comme étant quelque chose qui ruine l'existence. Et le Nouveau Testament n'est pas surpris que les gens du dehors parlent ainsi. C'est même quelque chose auquel on pourrait s'attendre, qu'on devrait s'attendre, que ceux qui sont autour de nous voient la vie chrétienne comme étant quelque chose d'étroit, comme étant un carcan, comme étant quelque chose qui nous empêche de vivre selon les standards du monde. Mais un enfant de Dieu ne peut pas penser comme le monde. Ça serait illogique, ça serait contradictoire, ça serait contraire à la raison. Et cette personne serait pleine de contradictions. Et c'est le test, en fait, que nous avons dans ces versets. Comment est-ce que l'on réagit face à cette exhortation de meubler notre foi, d'affirmer notre vocation et notre élection? C'est donc l'argumentation de l'apôtre Pierre. Pour lui, c'est quelque chose de logique. Pour un enfant de Dieu, pour quelqu'un qui professe connaître le Seigneur Jésus-Christ, c'est tout à fait logique donc de faire appel et d'appeler à cette vie de sainteté. Pierre va nous donner trois raisons pour meubler notre foi. Il va nous donner une raison négative et ensuite deux raisons positives. La première, donc, c'est la raison négative et peut la trouver au verset 9. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Ne pas joindre ces choses, donc la liste que nous avons vue, ne pas joindre ces choses à la foi, cette foi que l'on professe avoir, c'est en fait montrer notre ignorance de ce qu'est la vie chrétienne. Pierre dit deux choses. Il dit tout d'abord que cette personne ne voit pas de loin. C'est-à-dire que cette personne ne voit pas les choses qui sont au loin. Elle voit les choses qui sont devant son nez, mais elle est concernée par ce qui est temporel, par ce qui appartient au présent, par ce qui appartient à ce monde. C'est quelqu'un qui veut jouir de la vie présente, mais qui oublie que cette vie arrive à un terme et qu'il y a quelque chose après la mort. C'est quelqu'un qui voit ce monde qui brille, qui voit ce monde avec ses pseudo-joies et ses plaisirs, son soi-disant bonheur, et qui ne voit rien d'autre, qui ne voit pas plus loin. Il voit ce qui est devant lui. Une telle personne, dit Pierre, ne voit pas le but de la vie chrétienne. Elle ne voit pas l'objectif final. Cette personne, pour reprendre une image, affirme avoir commencé un voyage, mais a oublié sa destination. Elle a oublié pourquoi il est parti. Elle a oublié la motivation. Elle a tout oublié. Elle a oublié le but de la vie chrétienne. L'objectif, notre destinée. Quel est-il? C'est, bien entendu, voir Dieu, se réjouir avec lui pour toujours. Et on retrouve cet argumentaire, par exemple, chez l'apôtre Jean, dans sa première lettre au chapitre 3 et au verset 3, « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » On a le même langage ici, chez Pierre. Ne pas agir ainsi, c'est ne pas voir de loin, c'est être aveugle, c'est avoir oublié l'objectif, c'est avoir oublié pourquoi on est parti, pourquoi on a commencé à marcher sur le chemin. Il ne voit pas les choses de loin. Et la deuxième chose, dit l'apôtre Pierre, c'est qu'il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Non seulement cette personne ne voit pas de loin, mais en plus, elle ne voit pas ce qui est derrière. Elle a oublié la raison du salut. Pourquoi Jésus-Christ est-il venu dans le monde? Quel est le but de l'incarnation? Il a oublié ce que l'ange a dit à Joseph. Tu lui donneras le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Cette personne a oublié que le Fils de Dieu s'est fait homme pour mourir, pour délivrer son peuple de ses péchés. Cette personne a oublié ce que l'apôtre Paul résume dans Tite chapitre 2 et au verset 14, où Paul écrit ceci. Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Et l'apôtre Pierre donc argumente de la même manière. L'apôtre Pierre il dit, mais si nous avons oublié ces choses, si plutôt si nous n'avons pas oublié ces choses, si nous croyons effectivement ces choses, nous ne pouvons pas être indifférents par rapport au péché. Nous devons haïr le péché. Nous devons nous séparer du péché. Si nous croyons que Jésus nous a délivrés du péché, comment pouvons-nous continuer à tolérer le péché dans notre vie? Pour Pierre et pour Jean et pour les autres, c'est tout à fait illogique. C'est tout à fait inconcevable. Et donc, d'où l'exhortation, veillons à joindre à la foi, la vertu, la connaissance, la patience, etc. Celui qui ne le fait pas, celui en qui ces choses ne sont point, il a oublié la purification de ses péchés, il a oublié le but même de l'incarnation du Fils de Dieu, de l'humiliation de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection. Il est inconséquent avec lui-même. Et sa profession de foi n'est plus crédible, puisqu'il est tout à fait illogique. Il a oublié, il a perdu de vue le but de la vie chrétienne. Il ne voit plus les choses de loin et il ne voit oublier ce qui s'est passé. Il a perdu de vue ce que Jésus-Christ est venu accomplir. Voilà la première raison dans l'argumentaire de l'apôtre Pierre. Une raison donc négative. La deuxième est donc une positive. Pierre donc nous exhorte à affermir notre vocation et notre élection parce que cela nous amène à une vie active et une vie qui porte du fruit. Verset 8. Si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire, ne pas être oisif, avoir une vie active? Si on suit l'argumentaire de l'apôtre Pierre, on va noter ceci, que l'activité est le résultat d'un caractère. Et ça, c'est quelque chose d'important. Parce que il est nécessaire de devenir quelqu'un avant d'agir. Pierre ne dit pas qu'il faut s'empresser d'être actif à n'importe quel prix. Et aucun autre auteur dans le Nouveau Testament ne dira le contraire. Il n'y a aucun appel dans le Nouveau Testament à l'activisme, à être actif pour le simple fait d'être actif. Non, l'apôtre Pierre nous a déjà exhortés, nous a rappelés à devenir comme Jésus-Christ, à lui ressembler. Et il a donné cette exhortation à joindre à la foi, cette foi que Dieu nous a donnée en Christ, à joindre à cette foi la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, etc. Et ensuite, si ces choses sont en vous, si ces choses sont en vous avec abondance, c'est elles qui ne vous laisseront point oisifs. Et le raisonnement du Nouveau Testament, il est là. L'apôtre nous exhorte à rechercher la sainteté parce que c'est un homme saint qui est actif. C'est la différence entre la méthode chrétienne et la méthode charnelle. Nous sommes appelés à veiller sur nous-mêmes, à cultiver les grâces qui sont en Jésus-Christ. Si ces choses sont en vous, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre activité sera déterminée par l'Esprit Saint qui habite en nous, et pas par une excitation charnelle, pas par une motivation purement charnelle. Non, ce sera l'expression de cette nouvelle nature qui ressemble à Christ. Il a fait ce qu'il a fait parce qu'il était saint, et c'est à lui que nous sommes appelés à ressembler et à vivre cette vie parce que nous sommes de nouvelles créatures, parce que nous lui ressemblons davantage. Et Pierre de préciser que cette activité porte du fruit. L'activisme, lui, quand on regarde bien, porte très très peu de fruits. On voit les efforts de l'homme qui ne produisent pas grand-chose. Il suffit de voir l'Église aujourd'hui, de voir tous ces organismes, toutes ces campagnes, toutes ces institutions. On voit le nombre de membres d'Église qui baissent. On voit les réunions de prière qui sont de moins en moins fréquentées. Et le monde autour de nous qui n'est pas touché. L'activisme ne porte que très peu de fruits. L'activité du chrétien, du véritable enfant de Dieu, elle porte des fruits. Et donc nous sommes exhortés à veiller à développer ce caractère que nous avons, que Dieu nous a donné, à rajouter, à faire nos efforts d'ajouter à cette foi la vertu, la connaissance, etc. Et en développant ce caractère d'enfant de Dieu, nous attirons les regards des autres. Ils voient en nous la paix, une paix que eux n'ont pas. Ils voient en nous une bonté qui peut surprendre. Ils voient que nous sommes justes dans les décisions que nous prenons. Ils voient que nous les considérons, que nous sommes attentifs à leurs problèmes. Et de plus, nous pouvons leur apporter les réponses et nous expliquer que Dieu nous a tout donné en Christ. Celui qui est occupé dans l'activisme ne peut pas faire cela. Il est tellement préoccupé à faire des choses que prendre du temps pour se laisser enseigner par Dieu et veiller sur sa propre sur lui-même, pour lui c'est une perte de temps, puisqu'il n'est pas en train de faire des choses. L'enfant de Dieu, il sait qu'il est appelé à ressembler à Christ. Et si nous veillons donc à développer ce caractère, nous serons actifs et nos vies porteront du fruit. Si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la première raison positive. La deuxième que l'auteur nous donne, c'est que il nous dit de faire donc tous nos efforts pour joindre à notre foi la vertu, la connaissance, etc. Parce que cela mène à une fin de vie heureuse et bénie. Vous voyez un peu la logique de l'argumentaire de l'apôtre Pierre. Il dit, mais donc vous avez commencé dans le bon chemin. Vous continuez dans le bon chemin. Alors soyez rassurés, vous terminerez dans le bon chemin. Et là encore, il y a une question ou un test pour nous. Comment est-ce que nous faisons face à la fin de vie lorsque notre force naturelle diminue. Et on va autour de nous, des personnes qui vivent purement par leur activité. Et dès qu'ils arrivent en retraite, il n'y a plus rien pour les occuper et ils décèdent. Cela peut être même avec le cas pour quelqu'un qui veut servir le Seigneur. Quelqu'un peut vivre de son ministère au lieu de vivre pour Christ. Et dès que ses capacités faiblissent, il ne prend plus plaisir dans la vie parce qu'il se reposait dans ses activités et pense maintenant qu'il est devenu inutile. Comment est-ce que nous voyons ou nous envisageons la vieillesse ou même la mort? Et Pierre donc nous dit, celui qui joint la foi, la vertu, la connaissance et toutes ces choses que nous avons vues, et quelqu'un qui meurt de façon glorieuse et triomphale. Voyons cela dans le verset 11. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Intéressant de noter que le terme accordé ici est le même terme qui est traduit au verset 5 par joindre. C'est le même terme, vous joignez ces choses à la foi, donc cette entrée, si ces choses sont en vous, cette entrée sera jointe d'une certaine manière, sera rajoutée à vous. Comment est-ce que ça marche? Quand je serai âgé, quand je mourrai pour l'enfant de Dieu, la mort n'est qu'une entrée dans la vie glorieuse, dans la vie éternel avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un départ vers l'inconnu, mais c'est une entrée dans la maison du Père. Et l'enfant de Dieu meurt ainsi parce qu'il connaît Dieu. Toute sa vie, il a veillé avec la force que Dieu lui a donnée, avec la grâce de Dieu. Il a veillé à mieux connaître Christ, à désirer lui ressembler toujours davantage. Et il a cherché à ajouter à sa foi ces différentes choses. Et il sait où il va, parce qu'il n'a pas perdu de vue sa destinée éternelle. Il ne se sent donc pas seul à la mort, parce qu'il sait que Jésus-Christ est avec lui. Il n'abandonne pas les siens. Il ne se sent pas étranger, parce qu'il sait qu'il va vers la maison du Père. Il a médité sur ces choses, il les a regardées de loin par la foi. Il a placé ses regards non pas sur les choses de ce monde, mais sur les choses d'en haut. C'est l'exhortation de Paul aux Colossiens, chapitre 3. Et il affronte la mort en disant, je sais, je rentre, je retourne à la maison, cette maison que le Seigneur Jésus-Christ a promis de préparer pour les siens. Je vais être avec lui, qui est ce qui sera de loin beaucoup meilleur que ce que je n'ai pu connaître dans ce monde. La crainte de la mort a disparu. Il est prêt de quitter ce monde parce qu'il sait où il va. Et vers qui il va? Et c'est une entrée aussi qui est abondante ou large. Il n'est pas plein de. Le croyant qui quitte ce monde n'est pas plein de regrets. Il sait qu'il est accepté en Christ et il sait qu'il est accueilli. Qu'il sera accueilli dans la présence de Dieu avec cette joie par une multitude d'anges. C'est, rappelons-nous, la parabole de l'homme riche et de Lazare, quand le Seigneur parle de Lazare qui est emmené dans la présence de Dieu et qui est accueilli par une multitude d'anges. Et l'enfant de Dieu sait que quand il entrera dans la présence de Dieu, entendra cette voix du Seigneur Jésus-Christ lui-même qui dira, comme nous le lisons en Matthieu 25, 34, Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde et entrez dans la joie de votre Seigneur. Et le croyant sait cela. Il le sait parce qu'il a médité, parce qu'il a regardé de loin. Il n'est pas comme celui qui est aveugle, qui ne voit pas de loin. Mais au contraire, il a regardé de loin et il sait ce qu'il attend. Et il attend ce jour avec impatience. Et c'est donc l'argumentation de l'apôtre Pierre. Toute cette argumentation de l'apôtre Pierre pour affermir notre vocation et notre élection. Veillez à joindre à votre foi la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la patience, la piété, l'amitié fraternelle, l'amour. En faisant cela, vous n'oubliez pas le but de la vie chrétienne. Vous vivez une vie qui est active, qui porte du fruit pour Dieu, et vous vous préparez à entrer triomphalement dans la gloire de Dieu, dans la maison du Père. C'est pour ça donc que l'apôtre Pierre nous donne cette exhortation, quelque chose de logique, tout à fait logique pour un enfant de Dieu. Veillons donc, veillons avec la grâce que Dieu nous donne, veillons à faire tous nos efforts pour joindre à notre foi, cette foi que nous avons, une foi de grand prix, une foi que Dieu nous a donnée. Veillons ajouter à cette foi la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la patience, la piété, l'amitié fraternelle, l'amour, afin d'affermir notre vocation et notre élection et de vivre pour la gloire de Dieu. Que Dieu nous donne la grâce de vivre cela et de glorifier son nom par notre vie et par notre témoignage. Amen.